La question que je souhaiterais développer avec vous aujourd'hui s'intitule « L'acouphène est-il un mal incurable ?» Alors vous êtes tous des médecins généralistes et vous savez donc aussi bien que moi que l'acouphène est un motif de consultation très fréquent. Je voudrais insister sur le début de cette expérience qui est souvent inédite pour un sujet qui ne connaît pas l'acouphène, qui ne sait pas ce que c'est. Commencer à entendre un son un peu bizarre est en général une étrangeté. Et je voudrais vraiment centrer mon propos sur ces premières semaines, parce que je pense que beaucoup de choses se jouent à ce moment-là. La première chose qui frappe, bien sûr, vous le savez tous, c'est la description qui peut être très variable d'un sujet à l'autre. Pour certains, le bruit va être décrit comme quelque chose d'aigu, un peu comme un sifflement. D'autres vont parler de façon plus ou moins précise de chuintement, de bourdonnement, quelque chose de plus grave. En fait, assez souvent, les gens ont du mal, en tout cas les premières semaines, à trouver dans leur mémoire auditive un son qui corresponde assez fidèlement à ce qu'ils entendent. Et quand on leur demande à quoi ça ressemble, souvent ils disent d'emblée « c'est continu, c'est tel bruit, il est continu », en voulant bien montrer que le caractère continu de leur perception est quelque chose qui est à la fois insolite et dérangeant. Donc le facteur temporel a certainement un rôle important dans la gêne ressentie, ou dans l'expérience ressentie en tout cas. Donc il s'agit d'une perception. Cette perception, elle peut se faire sur une oreille, un peu plus peut-être du côté gauche qu'à droite, en fait souvent sur les deux oreilles, soit de façon équilibrée, c'est-à-dire que le sujet n'est pas capable de dire qu'il l'entend plus fort d'un côté ou de l'autre, ou alors il dit qu'il l'entend un peu plus d'un côté. Et là encore, c'est un peu plus souvent du côté gauche. Pour d'autres patients, au contraire, il s'agit d'une perception qui se manifeste dans l'ensemble de la tête. Et je ne me rends pas compte, je peux vous dire si c'est mes oreilles, c'est dans la tête. Pour moi, c'est diffus. Certains patients, même au début, vont vous décrire plusieurs acouphènes. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un acouphène qui est relativement fixe, continu, sur une oreille, par exemple un sifflement, donc quelque chose d'aigu, et puis ils vont décrire sur l'autre oreille, de façon plus intermittente, un autre son. Alors, ça peut être le même son, mais certains patients vont dire « c'est vraiment un autre son ». Maintenant qu'on a décrit sur le plan qualitatif à quoi ça pouvait être comparé, quelques mots sur l'installation. Cette installation, en tout cas rétrospectivement, peut être brutale. Bien sûr, à ce moment-là, on comprend qu'elle puisse être brutale lorsqu'on a affaire à une sûreté brusque. Vous savez probablement que quand on a une sûreté brusque, il est extrêmement fréquent, on pourrait presque dire, presque automatique, systématique, d'avoir un acouphène. Ou bien encore, quand il s'agit d'un traumatisme sonore aigu, par exemple un pétard qui explose ou un séjour trop prolongé face à une source sonore excessive. Dans d'autres circonstances, où l'installation est brutale elle aussi, le sujet, rétrospectivement, va faire un lien avec, par exemple, une sinusite. Ça, c'est quelque chose que je rencontre assez souvent et qui est très peu exploré sur le plan de la recherche. Et c'est un peu troublant parce que ce sont des territoires qui sont anatomiquement et fonctionnellement quand même relativement distants. D'autres vont également mettre en cause ou ont constaté l'apparition brutale après un long vol en avion. En fait, souvent, on n'en retrouve aucune cause évidente à l'interrogatoire, et au fur et à mesure que l'entretien se déroule et que le sujet prend confiance, qu'il se rend compte qu'on est là d'abord pour l'écouter, il va, de façon non exceptionnelle, faire part, on va dire, des événements de la vie, tels que, par exemple, la perte d'un être cher ou une dispute intense, un licenciement, etc. Les aléas de l'existence, en particulier actuelle. Chez d'autres malades, l'installation va être progressive, par exemple chez quelqu'un qui a travaillé dans le bruit ou qui est soumis par ses loisirs à une exposition chronique au bruit. Ce que je vais aborder maintenant est un peu plus, je dirais, atypique. C'est-à-dire que je vais essayer de vous décrire ce qui peut se passer dans la tête d'un sujet qui commence à avoir un acouphène. S'ils sont deux, c'est-à-dire s'il y a un conjoint, au début où ça commence à être entendu, et en général c'est le soir, en général, donc le sujet concerné, il va demander au conjoint, est-ce que tu l'entends ? Bien, vous imaginez qu'il va être assez perplexe quand il va se rendre compte que l'autre ne l'entend pas. Et alors, il n'est pas rare du tout que la personne se lève, fasse le tour de sa maison, de son appartement, pour essayer de voir quel est l'appareil qui n'a pas été éteint, quel est le radiateur qui marche encore, etc. Bien sûr, ne trouve rien. Bon, alors ça le laisse assez perplexe, intrigué, voire il commence à être un peu inquiet, mais enfin, il a fait le tour, il s'est rendu compte qu'il n'y a rien, il est relativement tard, il se couche, et le lendemain, il se rend compte, le lendemain ou dans les jours suivants, il se rend compte que, même dans des endroits différents, il continue à entendre ce bruit. Donc à partir de là, il va prendre conscience, il va réaliser que ce bruit vient de lui, et non de l'environnement, de la pièce dans laquelle il se trouve. L'expérience quotidienne, puisqu'on a dans le service la chance d'avoir une clinique des acouphènes qui marche maintenant depuis près de 8 ans, montre que, assez rapidement, le fait d'entendre un acouphène va amener le sujet à penser. Quand je dis penser, c'est se poser des questions, parler avec lui-même. Chez certains sujets, l'acouphène va être intense d'emblée. Heureusement, ils sont relativement rares, ceux-là. Et souvent les patients déclarent à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir supporter ça longtemps, s'il y a de quoi se taper la tête contre les murs. C'est un témoignage récent ou rétrospectif. La majorité des patients vont dire que c'est plutôt léger au départ et qu'ils l'entendent, qu'ils ont commencé à l'entendre uniquement dans le silence. Donc très doux, les dérangeant très peu, mais qu'à par moment il devient plus intense. Et là ça devient intéressant. Parce que l'intensification est une source d'interrogation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le patient se demande jusqu'où ça monte, jusqu'où ça va monter. Il a déjà l'expérience de monter, puis d'une certaine descente. En général, on se rend compte davantage de la montée. Mais il se demande, est-ce que ça va continuer à monter comme ça, sans arrêt? Pour l'instant, j'arrive à faire face, mais si ça continue comme ça, là, je vais pas y arriver. Et ça, cette notion d'intensité ressentie, c'est un point majeur chez les patients. Donc, quand je dis majeur, c'est pour vous persuader que vous n'arriverez pas à l'écarter de façon très simple, facile. Autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention, ce sont les rencontres. Alors, il y a d'abord les rencontres avec vous, avec le médecin généraliste. C'est une diapo qui est un peu ironique ou humoristique, comme vous voulez, avec du côté gauche quelques questions fréquemment posées. Par exemple, d'où est-ce que ça vient? Et en italique, vous avez ce qui, à mes yeux, devrait être la mauvaise réponse. C'est-à-dire ce que j'aimerais que les patients n'entendent plus. Je dois remarquer quand même, en interrogeant les patients, que de plus en plus on chemine dans le bon sens, en particulier avec les médecins généralistes. Donc, ce qu'il faut éviter de répondre, c'est « on ne sait pas ». Est-ce que ça peut disparaître? Question. Réponse à éviter, vous aurez ça toute votre vie. Vous voyez? Qu'est-ce que vous allez me donner pour que je ne l'entende plus? Il n'y a rien à faire, la médecine est impuissante. Avez-vous rencontré des cas similaires? J'ai rencontré des malades qui sont devenus rapidement dépressifs et quelquefois graves. Tout comme vous, au début, quand j'ai commencé à entendre ces premières témoignages, je pensais que c'était des histoires de chasse qui étaient épisodiques, et malheureusement, elles se rencontrent encore assez souvent, mais encore une fois, pour être positif, moins qu'il y a encore quelques années. Deuxième type de rencontre, alors là vous n'y êtes pour rien, ce sont les rencontres du hasard, par exemple les voisins ou les collègues de travail qui vont dire, quand ils vont entendre ce témoignage un peu intrigué, tiens, c'est du curieux, qu'est-ce que tu me chantes là, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas possible, tu dis que tu entends un truc, moi je n'entends pas, donc c'est pas possible, c'est dans la tête que ça se passe, vous voyez, bon, perplexité. À l'inverse, j'ai vu récemment une dame dont le témoignage était très intéressant, parce qu'il se trouve que par le hasard, elle a rencontré deux personnes dans sa rue qui avaient l'expérience de l'acouphène et qui lui ont fait pratiquement le même témoignage. Ils lui ont dit, ne vous inquiétez pas, moi j'en ai eu très rapidement, ça m'a pu déranger. Maintenant, je n'y pense absolument plus. Et donc, dit la patiente que je vois en consultation, ah, ceci m'a aidé à me décider que très rapidement, je n'allais pas me laisser embêter par ça, et assez rapidement, j'ai appris à ne plus l'écouter, je l'entends presque plus, sauf quand je suis dans le silence le plus complet, et je l'oublie très facilement, dès que je suis un peu occupé. Et moi, je pense que ce type de rencontre favorise le passage sur un chemin ou sur l'autre. Admettons qu'il y ait deux chemins, il y en a peut-être trois. Et puis vous avez au contraire des témoignages angoissants, tels que celui qui m'a été rapporté par un jeune garçon qui avait vu un reportage à la télévision, dans lequel il avait vu une jeune fille dire « c'est terrible, au début j'ai cru que j'allais être folle, maintenant je dors très mal et ça me pourrit la vie ». Et il me dit, à ce moment-là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « pourvu que j'ai jamais ça ». Et 4-5 jours après, ça y est, ça a commencé. Et oui, c'est pas des histoires inventées, hein, c'est la réalité. Hein. Après, si vous me demandez comment ça se fait, ça je ne sais pas toujours. Hein. Ensuite, vous avez quelque chose de plus personnel sur, on va dire, l'influence de la vie antérieure. Par exemple, dans la famille, des expériences entre guillemets similaires dans la famille. Alors le sujet qui dit, mon père avait des acouphènes, il n'entendait pas très bien, mais c'était à la fin de sa vie. Il n'a jamais réussi à s'adapter vraiment à cet appareil, pourvu que je ne devienne pas comme lui. On aurait tort de négliger ce genre d'appréhension, croyez-moi, parce que ça a une action vraisemblable sur la façon dont on analyse le sifflement. Autre expérience, à contrario et plus positive, expérience de l'enfance, de la part d'une dame qui est originaire des Antilles et qui me raconte avec beaucoup de romantisme que dans son île, lorsque le soleil commence à se coucher, apparaissent des bruits. Il y a des oiseaux, il y a des insectes qui se mettent en agitation au fur et à mesure que le soleil décline. Et elle me dit, je me suis persuadé que ce que j'entendais maintenant, ça vient son acouphène, était exactement comme ces bruits. Et donc maintenant, quand je fais attention, quand j'entends mon acouphène, j'ai l'impression d'être dans mon île. Vous voyez ? C'est joli, hein ? Alors, ceci étant, voilà, ça c'est la partie du témoignage. Quand les patients me demandent, alors d'où ça vient, voilà ce que je leur explique. Moi je leur dis que ça vient du cerveau. C'est une réaction du cerveau. C'est-à-dire que normalement, l'oreille interne, ici, elle donne naissance à un influx nerveux quand il y a un son à l'extérieur. Et cet influx nerveux, bien sûr, il va nourrir le cerveau, notamment sa partie consciente, que vous voyez ici. Mais aussi à une deuxième fonction qui est en général peu connue, qui est de mettre au repos les zones, les noyaux auditifs, en leur disant économisez-vous. Vous n'entrez en action que lorsque je vous le dirai. Et le résultat, vous restez tranquille. Donc, si l'influx qui sort de l'oreille a perdu une partie de ses propriétés, parce que l'oreille marche un peu moins bien, pour une raison ou pour une autre, eh bien, à ce moment-là, ces noyaux se mettraient à fabriquer un sifflement. C'est comme ça que j'explique à mes malades. Je ne prétends pas que ce soit la physiopathologie unique, il y a certainement des mécanismes différents, mais je pense que c'est un mécanisme que l'on peut invoquer assez souvent. Autre point qui me paraît intéressant à développer quand on est face au malade, c'est la notion de prêter attention ou balance attentionnelle. En gros, donc je prends un stylo dans ces cas-là, voilà, et je pivote autour de ce point, en disant, on fait attention soit à l'acouphène, soit à autre chose. Cette autre chose va dépendre des sujets. Qu'est-ce qui fait que le plateau de l'acouphène, ici, pèse plus? Premier facteur, le silence. Le silence, quand vous êtes le sujet dans le silence, c'est comme on lui mettait quelques grammes sur son plateau de l'acouphène. La fatigue, l'énervement aussi. Donc déjà, ça en général, le sujet, il est confirmé dans ce qu'il ressent. Donc ça lui parle. Là, ça commence à lui parler. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Donc pour alléger le plateau de l'acouphène et faire en sorte que la bascule se fait de l'autre côté, vous avez d'une part des facteurs qui vont agir sur l'acouphène. Le premier étant d'améliorer l'audition, d'avoir plutôt un fond sonore plutôt que le silence, et d'apprendre à se détendre par des techniques variées. Il y en a qui font la sophro, d'autres qui font du tai chi, ça dépend. C'est en fonction de ses goûts, de ses disponibilités, de ses croyances. Voilà. Et puis surtout, il faut s'occuper. S'occuper l'esprit, il ne faut pas hésiter à sortir. Le fait de marcher, par exemple, est souvent un moyen de s'évader, pour oublier, pour ne pas être focalisé. Voyez, il s'agit donc d'être le moins souvent dans cette première situation et le plus souvent dans la seconde situation. Il est très rare que les malades ne comprennent pas ça. Quelques mots sur les médicaments qui vont vous paraître certainement négatifs. Mais bon, c'est mon expérience et elle est critiquable. Je pense qu'il vaut mieux apaiser par l'écoute et la parole plutôt que d'en recourir d'emblée à des psychotropes auxquels je fais le principal reproche de créer une accoutumance. Ensuite, il y a tous les médicaments à visée vasculaire, oxygénateurs, etc., qui sont largement employés, et dont je pense, en étant, disons, optimiste ou positif, qu'ils ont tout au plus un rôle d'adjuvant dans les premières semaines, quelquefois dans les premiers mois. Peut-être aussi un effet placebo. Je pense que pour un patient, de prendre une petite pilule, peut-être que c'est utile sur le plan du placebo, plutôt que d'avoir l'impression qu'il n'y a rien. On ne lui donne rien, qu'il n'y a rien à faire. En ce qui concerne les épileptiques, les antiépileptiques type rivotril, personnellement, je vous conseille la plus grande prudence et surtout en matière de dose pour éviter ce que l'on voit de temps en temps. Les témoignages de malades encore disent ben, « Mon médecin, quelquefois c'est un otorhino, hein, rassurez-vous, il m'a dit ben, « Vous augmentez les doses jusqu'à ce que vous augmentez le nombre de gouttes, jusqu'à ce que vous n'entendiez plus que vous puissiez dormir. » Je vous jure que c'est vrai, hein. Donc j'ai vu des zombies débarquer avec 30-35 gouttes. Vous voyez dans quel état ils pouvaient être, hein, ces pauvres malades. Après, il y a la question plus délicate des antidépresseurs. Alors je sais bien que dans notre pays, c'est une catégorie de médicaments qu'on emploie souvent. Moi, je considère que ce n'est pas un traitement en première intention de l'acouphène. S'il y a une dépression avérée, c'est possible. Mais pour l'acouphène, personnellement, c'est pas ma vision, disons. Alors, je terminerai par cette diapo, sur qui reprend mon titre. L'acouphène est-il un mal incurable? Je pense qu'en termes de communication, il y a une double erreur en assénant cette sentence. La première, c'est que l'affirmation est souvent démentie. Souvent, moi je rencontre beaucoup de malades qui, je ne dis pas, sont heureux d'avoir l'acouphène, ça serait complètement exagéré, mais arrivent à se débrouiller. Donc, ils n'ont pas du tout l'impression, sauf si on leur insinue cette idée que c'est une maladie incurable, etc. Donc ça, c'est quand même un message d'espoir. Et surtout, deuxièmement, le fait de proférer une telle assertion peut déclencher une inquiétude massive, durable, qui va décourager complètement la personne à l'égard d'une possible amélioration dans le futur. Et ça peut durer des mois et des mois. Et donc les trois messages ultimes que je voudrais vous faire passer sont premièrement, c'est un peu la synthèse de ce que j'ai dit au temps de cet exposé, il n'est pas nécessaire à mon sens que l'acouphène s'en aille pour qu'on commence à aller mieux, pour que le sujet se sente mieux. Deuxièmement, il faut privilégier le calme à l'intérieur et amener du bruit à l'extérieur. Et troisièmement, chaque fois que c'est possible, il faut essayer l'audition. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est une approche qui a été pas mal recommandée, qui, je pense, peut être tentée dès l'instant où il n'y a pas trop d'agressions chirurgicales. C'est-à-dire que s'il s'agit de porter une gouttière, pourquoi pas. S'il y a un bon professionnel qui fait un diagnostic de trouble d'articulation, pourquoi pas. Bon, après, se lancer dans une opération stomatologique pour enlever un acouphène, chaque fois qu'on m'a posé la question, j'ai toujours dissuadé mes malades. Parce que j'ai vu pas mal d'échecs, beaucoup d'échecs. Les générateurs de bruit blanc, ils ont été... pas mal employé, ça a été une mode, disons une certaine, ça a créé un envoûtement. Donc assez rapidement, c'est aussi devenu, ça a pris un caractère un peu commercial, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui en ont prescrit ou posé un peu n'importe comment, il faut bien le reconnaître. Ça peut être utile, en particulier quand on a une hyperacousie. Je n'ai pas parlé de l'hyperacousie, c'est-à-dire le fait d'avoir une sensation exagérée à l'égard des bruits de la vie de tous les jours. Quand un sujet a un acouphène et qu'il a une hyperacousie dérangeante, en général, il a un acouphène invalidant. Donc, pour contrecarrer une hyperacousie, il peut être utile d'utiliser des générateurs de bruit. On peut commencer par des choses quand même un peu plus simples, telles que l'écoute un peu de musique ou des bruits de la nature. C'est en général par ça que je commence. Parce que les appareils sont quand même relativement coûteux. Un générateur, ça coûte autour de 500 € et c'est nullement remboursé. Donc, vous ne pouvez pas infliger cette dépense à tout le monde, loin de là. Et en plus, les effets ne sont pas reproductibles à grande échelle, il faut bien le dire. Et il faut toujours un encadrement très solide sur le plan psychologique.
Donc, je vais effectivement parler des infections ORL à répétition de l'enfant, en centrant mon propos surtout sur la prise en charge au long cours plus que sur le traitement des épisodes aigus. Donc j'ai regroupé dans l'intitulé infection ORL à répétition les rhinopharyngites, les otites et les angines qui, on le verra, suscitent de nombreuses consultations auprès du médecin généraliste, environ un tiers des consultations. Et elles n'ont pas de gravité en soi sur les épisodes aigus, mais leur répétition entraîne un retentissement scolaire et social qui est important. Les médecins généralistes subissent la pression des parents qui ne supportent plus d'avoir leurs enfants infectés en permanence, qui ratent l'école, ces enfants qu'il faut envoyer en consultation sans arrêt. On verra que le traitement, il y a les traitements médicamenteux, mais il y a surtout l'éducation des enfants et des parents qui vont rendre beaucoup de services. On verra également que dans certains cas, il faudra penser à rechercher des maladies sous-jacentes qui peuvent favoriser ces infections à répétition, mais en gardant à l'esprit que l'évolution spontanée est favorable le plus souvent, sans traitement particulier. Donc, je vous ai remis quelques rappels anatomiques pour bien comprendre le fonctionnement et l'intrication de ces pathologies entre elles. Donc, tout d'abord, le cavum, qu'on appelle aussi le rhinopharynx, qui se trouve en arrière des fosses nasales, qui a comme rôle d'humidifier, donc de la même manière que toutes les fosses nasales, et de réchauffer l'air qui est inhalé. Mais il a également des fonctions de défense pour filtrer les particules, une fonction de drainage mucociliaire, et puis l'intervention du système du complément et l'immunité muqueuse qui est IGA dépendante. Au niveau de ce cavum, sa bouche, ce qu'on voit ici, qui est la trompe de Stache, qui permet de faire communiquer donc le cavum avec l'oreille moyenne. Cette trompe de Stache, elle permet de protéger l'oreille moyenne, puisqu'elle est censée être fermée en dehors des moments où on déglutit, protège l'oreille moyenne donc des sécrétions qui viennent du nez. Elle permet de drainer les sécrétions de l'oreille moyenne vers le nez lorsque c'est nécessaire et d'aérer l'oreille. Si elle est obstruée, soit par un paquet de végétation qui se trouve dans le cavum, soit par un phénomène inflammatoire chronique au niveau du cavum, on n'a plus ce drainage des sécrétions et on n'a plus d'aération de l'oreille moyenne. Donc on peut se retrouver avec une otite séreuse, qui correspond à la rétention d'un liquide muqueux aseptique, ou une rétraction du tympan, puisque lorsque l'oreille n'est plus aérée, il y a une consommation des gaz qui se trouvent dans l'oreille, schématiquement, et on se retrouve avec une pression négative dans l'oreille moyenne. Donc on sait qu'une rétraction du tympan peut aboutir après à un cholestéatome. Au niveau oropharyngé, on retrouve également d'autres organes lymphoïdes, donc les végétations adénoïdes dont je viens de parler brièvement, qui se trouvent dans le cavum, mais au niveau oropharyngé, les amygdales et les amygdales linguales. Donc tout ça représente l'anneau de Waldeyer qui est la première barrière et le premier système de défense vis-à-vis des micro-organismes. Donc ces infections ORL, elles apparaissent en général à partir de 6 mois et vont perdurer jusqu'à 6 ans. Avant 6 mois, les enfants sont protégés par les immunoglobulines d'origine maternelle. Après 6 mois, le fait de présenter donc ces infections à répétition va entraîner une maturation du système immunitaire. Donc toutes ces infections sont de véritables, c'est une maladie d'adaptation de l'enfant face à son environnement. Et ces réactions immunitaires, elles ont lieu au sein du tissu lymphoïde de l'anneau de Waldeyer. Donc légèrement cause la plupart du temps dans les rhinopharyngites, elle est le plus souvent virale, elle se surinfectera par la suite. Les otites moyennes aiguës, c'est essentiellement pneumocoque et hémophilus. Les angines sont le plus souvent virales, ça vous le savez, les plus ou moins bactériennes à streptocoque. Et un rappel simplement pour rappeler que l'otite séromuqueuse, elle est aseptique, stérile, et que ce n'est pas. Elle fait suite souvent aux épisodes d'otite moyenne aiguë, mais elle ne représente pas une infection, c'est une conséquence des infections à répétition. Donc la définition des infections à répétition, on considère qu'elles sont répétées lorsque pour les otites, elles sont de plus de 3 épisodes ou qu'elles durent depuis plus de 6 mois, les angines 7 épisodes ou plus en un an, les rhinopharyngites, donc après 3 ans, 6 épisodes ou plus par an avec de la fièvre, l'enfant qui a le nez qui coule mais qui n'a pas de fièvre, on ne considère pas que c'est une rhinopharyngite. Les sinusites, donc après 3 ans aussi, 3 épisodes ou plus en 6 mois. Et les laryngites, il n'y a pas de définition internationale admise. Et je n'en parlerai pas dans cet exposé. Donc face à ces enfants qui ont des infections à répétition, on va se trouver dans deux cas de figure. Soit vous allez les voir pendant l'épisode aigu, soit en dehors. Donc pendant l'épisode aigu, il n'y a pas vraiment de particularité. L'interrogatoire permettra de relever... permettra avec l'examen clinique de porter le diagnostic d'infection ORL aiguë, donc soit une rhinopharyngite, une otite, une angine. En cas de rhinopharyngite isolée, évidemment, on recherchera toujours une otite associée ou simplement une otite séromuqueuse. On vérifiera également l'existence d'une angine. Le plus important dans ces cas-là, en période aiguë, c'est de rechercher une complication de ces infections, dont on parlera tout à l'heure. De rechercher une association à une atteinte bronchopulmonaire parce qu'on verra que ça, c'est un signe de gravité. Et noter les épisodes antérieurs et les traitements antérieurs qui ont été utilisés, particulièrement les antibiotiques. En dehors de la crise, on va essayer d'évaluer le caractère récidivant, la fréquence, la durée des épisodes, la présence de fièvre, encore une fois, d'une rhinopharyngite ou un enfant qui a le nez qui coule sans fièvre, c'est pas la même chose qu'une vraie rhinopharyngite fébrile. Le caractère saisonnier qui pourra faire évoquer une allergie, les signes intercritiques, notamment la présence d'un ronflement qui entraîne un sommeil de mauvaise qualité, une gêne lors de l'alimentation, par exemple dans une hypertrophie amygdalienne qui persiste en dehors des angines, le retentissement sur l'état général, sur la courbe de croissance, et on recherchera la notion d'allergie respiratoire, de reflux gastro-œsophagien et un tabagisme passif. Donc les facteurs favorisants qu'on recherchera également à l'interrogatoire, donc c'est l'absence d'allaitement maternel, le mode de garde en collectivité, les antécédents familiaux d'otite récidivante, les allergies respiratoires, le reflux, le tabagisme passif. Alors il y a certaines études qui l'ont un peu remis en cause, mais chez les enfants plus grands, mais c'est vraiment démontré avant l'âge de 1 an. Donc chez les tout petits, il faut vraiment chercher à savoir si les parents fument dans la maison ou pas. L'anémie fériprive, dans les pseudo-rhinopharyngites, mais qui ne toucheraient qu'une fosse nasale, il faut penser à rechercher un corps étranger, parce que les enfants ont tendance à se mettre un peu n'importe quoi dans le nez, et dans une rhinopharyngite qui coule uniquement d'un côté, c'est la première chose à évoquer. La notion d'un déficit immunitaire, on verra qu'on le recherchera s'il n'est pas connu dans certains cas, ou de maladies ciliaires ou de mucoviscidose. Les complications des épisodes aigus, je vais juste les citer parce que c'est pas le propos de cet exposé. Donc dans les otites, pensez en période aiguë à la mastoïdite, à la labyrinthite, surtout s'il existe des vertiges ou un nystagmus chez l'enfant, une paralysie faciale, cholestéatome, ça c'est le diagnostic est fait à l'otoscopie lorsque c'est possible. Dans les rhinopharyngites, Chez l'enfant plus grand, il faudra penser à l'ethmoïdite ou à l'adénophlegmon. Et dans les angines, évidemment, le phlegmon périamygdalien, c'est parapharyngé ou rétropharyngé. Donc ça, on l'évoquera s'il existe une dysphagie, bien que les amygdales ne soient pas très augmentées de volume. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui gêne plus bas. Et l'adénophlegmon également. Alors, ce qui est plus en rapport avec cet exposé, c'est les complications à long terme. Le plus fréquent et le plus important à repérer, surtout pour vous qui voyez les enfants de façon régulière, c'est le retentissement otologique avec la surdité que peut entraîner l'otite séreuse. Donc on comprend bien que si au décours des infections des rhinopharyngites, l'enfant présente une otite séreuse qui normalement doit rentrer dans l'ordre en quelques semaines, si elle persiste parce que les épisodes sont répétés, la conséquence, c'est une surdité de transmission puisque l'oreille se retrouve remplie de sécrétions. Une surdité chez un enfant avant l'âge de 3 ans, ça entraîne un retard d'acquisition du langage, des troubles du comportement, un retard scolaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être dépisté, à la fois otoscopiquement mais à l'interrogatoire auprès des parents. Si ces phénomènes perdurent, donc que ce soit l'otite séreuse, la rétraction ou encore parfois dans les otites moyennes aiguës à répétition des séquelles d'otite comme une perforation tympanique, on se retrouve avec ce qu'on appelle une otite chronique qui devra également être dépistée. Le retentissement général, donc les troubles de la croissance et du développement chez les enfants qui ont des infections avec de la fièvre répétée ou des enfants qui ont une hypertrophie amygdalienne. Et les complications à distance classiques sont le RA et la maladie de Still, bien qu'ils soient de plus en plus rares. Donc spontanément, ces enfants ils vont avoir une évolution favorable avant l'âge de 6 ans, puisqu'ils auront fini leur réponse immunitaire. Petit à petit, les épisodes vont s'espacer. Il y aura une disparition des otites qui complique les épisodes de rhinopharyngite. Toutefois, il faut penser, chez ces enfants-là, il ne faut pas forcément dire que c'est une fatalité, que c'est la maladie des enfants d'avoir des rhinopharyngites à répétition. Dans certains cas, il faudra s'interroger sur la cause et pourquoi certains en font plus que d'autres. Et parfois, un bilan s'imposera. Donc, en première intention, c'est un bilan simple avec un examen clinique. On recherche une hypertrophie amygdalienne en dehors des épisodes, une hypertrophie des végétations adénoïdes, donc soit par une radio de cavum de profil, soit par une nasofibroscopie qui peut être faite même chez le tout petit par l'ORL. Indirectement, vous pouvez poser la question aux parents de savoir si l'enfant ronfle en dehors des épisodes d'infection. Un enfant qui ronfle sans avoir de rhinopharyngite, sans avoir le nez qui coule, il y a fort à parier qu'il ait une hypertrophie des végétations adénoïdes. L'otite séromuqueuse, elle se voit à l'otoscopie, avec un liquide, on va voir des photos après, un liquide en général un peu jaunâtre ou un tympan un peu mat. La rétraction tympanique ou la perforation du tympan qui se voit également à l'otoscopie. En cas d'infection répétée, on peut proposer donc une numération formule sanguine pour rechercher une anomalie sur la lignée blanche ou une anémie et une sidérémie, une ferritinémie pour rechercher un déficit en fer qui sera responsable en général aussi d'une anémie. Si ce bilan n'apporte pas de réponse particulière, que l'enfant fait des infections, continue à faire des infections répétées avec des conséquences otologiques, souvent avec une suspicion d'allergie sous-jacente ou d'infection bronchopulmonaire associée, il faudra pousser le bilan un peu plus loin avec une enquête allergologique qui recherchera des éléments cliniques évocateurs d'allergie, puis un fadiatope pour doser les immunoglobulines E spécifiques, et enfin les tests cutanés, les prix de test après 3 ans, mais ça c'est du domaine de l'allergologue. On n'hésitera pas non plus à demander une radiographie thoracique en cas d'asthme associé de maladie pour rechercher une maladie pulmonaire associée et un test de la sueur pour rechercher une mucoviscidose. Ensuite, en troisième intention, ça c'est à confier à des services plus en général hospitaliers spécialisés, il faudra rechercher des déficits immunitaires et un reflux gastro-œsophagien, donc un dosage des immunoglobulines A, G, M et E pour rechercher un déficit congénital ou acquis. On sera alerté essentiellement s'il y a d'autres foyers infectieux que les foyers ORL et s'il y a des infections bronchopulmonaires associées un peu graves. La pH-métrie, elle sera demandée, donc c'est l'examen qui permet chez l'enfant de confirmer un reflux gastro-œsophagien. On sera tenté de la demander devant le caractère nocturne ou lié au décubitus des signes ORL et bronchiques, l'absence de caractère saisonnier qui aurait fait évoquer plutôt un problème allergique, la localisation droite des pneumopathies et la négativité de l'enquête étiologique, particulièrement celle de la recherche de déficit en immunoglobuline, le test à la sueur et l'enquête allergologique. Et enfin, en dernier recours, on proposera des biopsies des muqueuses nasales pour rechercher des maladies ciliaires, une mucoviscidose, sur une anomalie de fonctionnement des cils au niveau de la muqueuse. Donc le traitement, son objectif, je ne parlerai pas évidemment du traitement des épisodes aigus, mais en dehors des épisodes pour essayer de prévenir la répétition des infections, il est basé sur le dépistage des facteurs de risque. Pour prévenir les séquelles à long terme, en particulier les séquelles au niveau auditif, traiter les complications des infections à plus court terme que sont l'otite séreuse et l'obstruction nasale, calmer l'anxiété des parents et diminuer le coût engendré par les visites médicales, la chirurgie et les médicaments. Donc, pour limiter la récidive des infections, il faut limiter l'état inflammatoire chronique de la muqueuse de la sphère ORL. Donc, la première chose à faire, c'est ces petits moyens qui vont me permettre de laisser un peu au repos la muqueuse ORL, donc les lavages de nez. Quand les enfants sont trop petits, donc on essaiera de leur apprendre le mouchage le plus précoce possible. Quand c'est pas possible, il faut essayer d'expliquer aux parents comment on sert d'un mouche-bébé. Donc les parents font le lavage de nez, ensuite aspirent les sécrétions avec le mouche-bébé. Il faut rappeler aux parents qu'un chauffage modéré de la chambre est préférable avec une humidification de l'air. Il faut penser à demander si les chambres sont chauffées avec du chauffage électrique qui assèche l'air et qu'elles sont surchauffées. Ça favorise énormément les rhinopharyngites. Donc traiter tous les facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure. On peut utiliser les traitements homéopathiques si on le souhaite. Et enfin penser à la vaccination antipneumocoxique et anti-hémophilus. Ensuite, pour traiter les différentes complications des infections, on va parler en premier essentiellement de l'otite séromuqueuse. On utilisera un traitement médical en première intention. On verra qu'il n'y a pas grand-chose, le traitement médical ou le traitement mécanique, il n'y a pas grand-chose qui fait la preuve de son efficacité. Je vous parlerai de l'autovent, des aérosols manosoniques. Les fluidifiants, ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'études bien menées sur le sujet, mais on les utilise quand même de façon courante. Il faut penser qu'une otite séromuqueuse, on va la traiter médicalement avec ces moyens-là, mais il faudra la suivre et si elle perdure plus de 3 mois, il faudra envisager un geste chirurgical dont on reparlera tout à l'heure. Donc l'autovent, en fait, c'est ce ballon qu'on fait gonfler avec une narine en bouchant l'autre par l'enfant. Le fait de le gonfler avec une certaine pression, l'enfant va envoyer de l'air dans le ballon, mais également forcer le passage des trompes d'Eustache et donc améliorer la ventilation de l'oreille moyenne. On utilise à peu près le même principe pour les aérosols manosoniques. En fait, on rajoute à l'aérosol sonique une surpression qui se déclenche au moment de la déglutition et qui va aller forcer le passage de la trompe d'Eustache pour aérer l'oreille de la même manière. Tous les autres traitements, comme les traitements antibiotiques au long cours, les fluidifiants, même si ce n'est pas démontré, la corticothérapie et les immunostimulants n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Donc il y a des périodes où c'était un peu plus à la mode, ceux-là ne le sont plus. Il y a plus beaucoup d'indications à utiliser ces traitements-là. Ensuite, il y a les traitements chirurgicaux. Donc on va parler de l'adénoïdectomie, de la parasynthèse qui peut s'accompagner d'une pose d'aérateur transtympanique et de l'amygdalectomie. Donc évidemment, on ne va pas faire les trois systématiquement. Le choix sera adapté au type d'infection que va présenter l'enfant et à l'efficacité des traitements médicamenteux. Donc, je commencerai par l'amygdalectomie. Les indications sont en premier l'hypertrophie amygdalienne s'il y a des troubles du sommeil, des troubles de la déglutition ou des troubles de la phonation. Les infections récidivantes, s'il y a plus de 3 infections par an pendant 3 ans, plus de 5 par an pendant 2 ans. En cas d'amygdalite chronique de plus de 3 mois. En cas de phlegmon récidivant, plus au premier épisode, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Et lorsqu'il existe une déméfection unilatérale, ce qui devrait conduire à avoir une suspicion de malignité. Donc là, même s'il n'y a pas d'infection en répétition, une asymétrie amygdalienne doit faire conduire à l'amygdalectomie. L'adénoïdectomie, elle consiste à aller retirer le paquet de végétation adénoïde qui se trouve dans le cavum et qui venait boucher la trompe de Stache et favoriser les infections à répétition. Donc l'indication de l'adénoïdectomie, c'est les otites moyennes aiguës à répétition, au moins 3 dans l'hiver. Un échec du traitement médical avec persistance d'une otite séromycose supérieure à 3 mois en dehors, entre les épisodes de rhinopharyngite. Et on ne l'indiquera qu'après l'âge de 1 an. Enfin, les aérateurs transtympaniques et les parasynthèses. Donc l'aérateur transtympanique, il va permettre de jouer le rôle de la trompe de Stache, mais de l'autre côté du tympan. La trompe de Stache n'aérant plus correctement la caisse du tympan. On ne sait pas opérer la trompe de Stache. Même quand on a enlevé les végétations et que ça n'a pas suffi, il y a parfois des anomalies anatomiques qui font que cette trompe de Stache ne fonctionnera jamais, ou en tout cas pas au cours de l'enfance. Et dans ces cas-là, il faut aérer l'oreille moyenne, mais cette fois-ci en faisant un trou dans le tympan, donc une parasynthèse qu'on maintiendra ouverte à l'aide de l'aérateur. Une parasynthèse qu'on laisse évoluer sans aérateur, au bout de quelques heures à quelques jours, elle se referme spontanément. Donc on mettra ces aérateurs en place s'il y a une surdité de plus de 25 décibels, s'il y a des otites moyennes récidivantes malgré l'ablation des végétations adénoïdes, ou s'il existe une rétraction tympanique menaçante qui pourrait évoluer vers la formation d'un cholestéatome. Ensuite, il y a d'autres traitements que l'on peut associer à ceci, c'est la crénothérapie, donc qui sont de moins en moins utilisés pour des raisons pratiques, de remboursement, de disponibilité des parents. Donc le principe, c'est de réaliser des traitements locaux qui sont effectués avec des eaux de source, des irrigations du nez, du pharynx, des pulvérisations, des aérosols, des douches pharyngées. Et on utilisera différents types d'eau en fonction du terrain que l'on veut traiter. Donc les eaux sulfurées des Pyrénées, elles seront plutôt utilisées dans les états infectieux chroniques des muqueuses ORL, alors que les eaux non sulfurées dans les sources d'Auvergne, par exemple, seront utilisées pour les états allergiques ou les maladies chroniques sans état infectieux sous-jacent. Donc je repasserai assez vite là-dessus, simplement quelques photos pour vous montrer toutes les utilisations qu'on peut faire de ces eaux thermales, donc soit en aérosol, soit en inhalation, en irrigation nasale, en insufflation tubaire ou en lavage de sinus. Donc en conclusion, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut traiter ces infections et leurs répétitions en ayant connaissance de l'histoire naturelle des infections à répétition de l'enfant et de leur physiopathologie. Il faut garder à l'esprit que, il faut l'expliquer aux parents, que l'évolution elle est spontanément résolutive dans la grande majorité des cas, que si on n'a pas de point d'appel en faveur d'une maladie sous-jacente ou pas d'allergie, pas de maladie bronchique associée, il faut être rassurant vis-à-vis des parents, mais il faut quand même garder à l'esprit que dans certains cas, c'est le premier signe d'appel de maladies plus graves qu'il faudra quand même, pour lesquelles il faudra proposer un bilan. Je vous remercie. Le mieux, en tout, quand on parle des otites séreuses en tout cas, le mieux c'est de voir les tympans. Si le tympan est normal, en parlant des otites séreuses et qu'il n'y a pas de liquide, il peut y avoir toujours une surdité d'autre origine qu'il faudra rechercher. On peut utiliser la voix chuchotée, mais il y a beaucoup d'autres arguments. Il y a les parents, ce que vont vous reporter les parents, s'il y a un trouble du langage, le comportement à l'école, l'agressivité des enfants. Le test de la voix chuchotée, le test de la montre, ça peut rendre service, mais je pense qu'au moindre doute, il faut demander un audiogramme.
Est-ce que les otoscopies qu'on fait avec le otoscope au cabinet de médecine générale sont suffisamment bonne qualité pour affirmer ou écarter une otite séreuse ?
Alors, si vous avez un bon éclairage sur votre otoscope, c'est pas tellement le grossissement, c'est une question d'éclairage, et qu'il n'y a pas de bouchon, qu'il n'y a pas de cérumen qui gêne la vision, c'est suffisant, un otoscope est suffisant pour diagnostiquer une otite séreuse. Mais on peut le voir avec un otoscope, bien sûr. Après, le problème, c'est les tout-petits qui ont rarement un examen facile, et je pense que si on a le moindre doute, il ne faut pas hésiter à les faire examiner par un ORL. Nous, on a des microscopes et on a des aspirations, surtout, qui permettent de voir. C'est pas tellement pour l'otite moyenne aiguë, à la limite, ça ne pose pas tellement de problèmes. C'est vraiment pas passer à côté d'une otite séreuse qui perdure. Et une otite séreuse avec une glu assez épaisse, c'est 50 décibels en moins. Donc, chez un enfant, ça retarde vraiment l'acquisition du langage.
Voilà, je pense que le vertige, c'est un vrai problème de médecine courante. Un vrai problème pour vous, parce que le patient qui arrive dans votre cabinet avec un vertige, souvent vous ne savez pas très bien par quel bout vous allez le prendre. Surtout que c'est un symptôme qui cache des choses très simples, très bénignes, et quelquefois des choses très graves. Et donc il faut essayer de, là-dedans, de s'y retrouver un petit peu. Et on va parler brièvement, puisqu'en fait le temps qui nous est imparti est quand même bref, de deux situations qui sont complètement différentes. C'est le vertige aigu et le vertige bref positionnel. Mais quel que soit le type de vertige auquel vous avez à faire face, ce qui est important, comme toujours dans notre beau métier, c'est l'interrogatoire et l'examen. Et c'est vrai qu'en matière de vertige, vous savez que nous avons des examens extrêmement sophistiqués, paracliniques fantastiques, d'une complexité très importante qui demande des années pour être bien assimilée, mais qu'en fait, dans 90% des cas, au terme d'un interrogatoire et d'un examen bien conduit, le diagnostic est fait. Et que ces examens paracliniques sophistiqués, ils vont nous amener à peaufiner notre diagnostic, à le rendre beaucoup plus précis, mais c'est plus, je dirais, à l'échelle de l'otorhinolaryngologiste. Mais pour vous, dans votre cabinet, avec très peu d'instruments, vous allez arriver à conduire le diagnostic de façon très fiable. Alors cet interrogatoire, il porte sur les circonstances de déclenchement du vertige, qu'il soit aigu ou qu'il soit positionnel. C'est-à-dire, est-ce que c'est un vertige qui se déclenche dans la position prise longtemps ou par le positionnement ? Est-ce que ça survient quand il y a une activité physique, une activité professionnelle, quand on se mouche, quand on fait des efforts ? Est-ce qu'il y a eu d'autres épisodes auparavant ? Est-ce que ça s'associe, ce petit vertige positionnel ou ce grand vertige, à un déséquilibre chronique qui est déjà là depuis des années ? Est-ce que le patient prend un traitement qui est susceptible de déclencher une atteinte vestibulaire, je pense aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, aux sels de platine, aux bien sûr aux médicaments aminosides qui sont bien célèbres pour cela. On se rapproche toujours des antécédents otologiques du patient, chirurgicaux, un écoulement d'oreille, évidemment tout ça, ça attire bien l'attention et ça oriente notre diagnostic vers l'oreille. Les antécédents neurologiques sont essentiels. Alors bien sûr il y a le trauma crânien, parce que dans les suites des traumas crâniens, il y a souvent une dysfonction vestibulaire latente. Il y a ces patients porteurs d'une maladie de Parkinson, et le vieillissement de la population fait que c'est une maladie de plus en plus fréquente, et rares sont les patients parkinsoniens qui n'ont pas des troubles de l'équilibre ou des vertiges qu'il faut investiguer, ou des patients qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, quelquefois simplement des AIT. Ce qui est capital, je crois, et peut-être sur quoi je veux absolument insister, c'est sur les signes d'accompagnement du vertige. Le vertige, c'est un, vous en connaissez la définition, cette sensation erronée de mouvement de vous-même par rapport à l'espace ou l'inverse. Mais est-ce qu'il y a, c'est peut-être la première question à poser avant que le patient soit assis, est-ce qu'il y a des signes neurovégétatifs d'accompagnement ? Parce que ça, c'est vraiment fondamental pour orienter du périphérique au central. Est-ce qu'il y a une céphalée aiguë ? Est-ce qu'il y a une surdité associée, des acouphènes ? Est-ce qu'il y a une hyperacousie ? Est-ce qu'il y a des cervicalgies ? Les cervicalgies font partie de ces signes qui doivent attirer l'attention sur un vertige aigu. L'examen clinique, il est basé d'abord, bien sûr, sur l'otoscopie, car il serait ballot de passer à côté d'une atteinte otite chronique, cholestéatome, et il ne se passe pas un an sans qu'on voit arriver dans mon service un patient avec un cholestéatome actif qui a une grande crise vertigineuse qui a été étiquetée Meynière. Alors qu'en fait, l'otoscopie va voir qu'il se passe quelque chose sur le tympan, même si le diagnostic ne s'impose pas tout de suite, on voit bien que le tympan n'a pas un aspect normal. Il est très simple, je dirais, de faire une manœuvre de Fukuda ou des déviations des index dans un cabinet de médecin, aussi petit soit-il, hein, c'est pas pour rien que ce sont les Japonais qui ont inventé le Fukuda, c'est parce que ça peut se faire dans un tout petit cabinet, à la différence de la marche en étoile. On va rechercher, outre les céphalées, le syndrome cérébelleux. C'est tellement simple de faire une épreuve douanée à un patient qui a des vertiges. Une épreuve douanée, un syndrome cérébelleux, une adiadocosinésie, une dyschronométrie, et on voit tout de suite qu'on s'oriente vers une pathologie centrale. Et tout ça ne prend que quelques minutes. Alors un nystagmus, voir un nystagmus, évidemment quand on a une caméra comme ça c'est très facile de voir un nystagmus, mais c'est pas toujours facile quand vous, dans votre cabinet, parce que vous allez demander au patient de suivre votre doigt, mais vous allez, en lui imposant le suivi du regard, fixer son regard et atténuer le nystagmus qui est habituellement périphérique. Voilà pourquoi nous on utilise des caméras infrarouges qui évitent la fixation. Donc ce nystagmus, il est en général de ce type, hein, il est torsionnel et latéral, ce qui veut dire que c'est l'ensemble du labyrinthe qui souffre. Alors, parlons d'abord du drame, ce que j'appelle le drame vestibulaire. C'est la grande crise de vertige qui va répondre, en gros, à quatre diagnostics. Vous voyez que j'ai mis une échelle de valeur en fonction de la police de caractère. D'abord, la maladie de Ménière, la névrite vestibulaire, l'AVC vertébro-basilaire et le noyénum de l'acoustique. Alors, la maladie de Ménière, c'est l'hydrops endolymphatique. C'est la poussée pressionnelle qui va provoquer une triade typique, ce que j'appelle le vertige associé, parce que le vertige n'est pas isolé. Le vertige s'associe à une surdité unilatérale, associée souvent à une plénitude de l'oreille qui est très marquée. Le patient le dit très bien, je sens qu'on pousse dans mon oreille, que ça, qu'il y a une pression, que j'ai comme de l'eau en même temps que ma crise, qui est souvent annoncée par un acouphène homolatéral. Et toujours, comme c'est peut-être le syndrome vertigineux le plus typiquement périphérique, il y a des signes neurovégétatifs qui sont extrêmement présents, qu'ils soient à type de nausée, de vomissement, de diarrhée, de malaise intense, de perte de connaissance, de sueur, etc. J'en passe, vous connaissez cela. Mais j'insiste sur la notion de pression dans l'oreille. Ce sont des patients qui ont en même temps, pendant leur crise, une surdité de perception unilatérale avec une courbe horizontale. Pourquoi une courbe horizontale? Parce que l'hyperpression des liquides endolabyrinthiques affecte surtout l'apex de la cochlée où se codent les fréquences graves. Et donc cette courbe horizontale à prédominance d'atteinte sur les fréquences graves est typique d'une atteinte pressionnelle de l'oreille. Alors le traitement de la crise, vous le connaissez, hein, c'est le repos. Il faut calmer ce patient qui est hyper anxieux. Il a besoin d'être traité par un traitement antivertigineux qui est connu de vous, bien entendu, c'est le tanganyl intraveineux. Les antinauséeux par primpérant sont bien sûr très utiles parce que les syndromes végétatifs est là. Et puis, chez des patients qui ont l'habitude et qui ont déjà eu des crises, le traitement par glycérol, qu'il faut prescrire de façon magistrale, hein, 63 grammes pour 100 ml d'eau, une cuillère à soupe, quand le patient peut la prendre, ça peut diminuer la pression des liquides labyrinthiques et finalement atténuer la crise ou celle qui va suivre. Et les sédatifs, bien sûr, ont un rôle fondamental dans ce contexte. C'est le traitement de la crise, et pour éviter que les crises se renouvellent, eh bien, nous avons des petits moyens. Ces petits moyens, il faut les utiliser. La bêta-histine a démontré son efficacité, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Les médicaments osmotiques ont un rôle dans la crise, mais aussi dans la prévention de la crise. Les diurétiques qui agissent encore sur la pression des liquides de l'oreille, type l'azidix faible ou diamox, avec des problèmes de tolérance liés à la fuite ionique. Et nous rentrons ensuite dans des médicaments pour lesquels la preuve n'est pas là en termes d'efficacité. C'est par exemple le trimétazidine. Et il ne faut pas oublier que certains de ces patients ont besoin d'une prise en charge psychologique car ils sont souvent en pleine détresse personnelle et professionnelle. La névrite vestibulaire, c'est le vertige, rien que le vertige. Ceci veut dire que c'est une crise unique, isolée, il n'y en aura pas d'autre, qui est associée à une destruction du vestibule sans atteinte cochléaire. Donc c'est la surdité brusque, entre guillemets, du vestibule. Probablement une origine virale. Le but, surtout, c'est de remettre le patient très vite en fonction. C'est-à-dire qu'il détruit son système vestibulaire par sa névrite, il faut très vite le rééduquer. Et là, le rééducateur vestibulaire, il a un rôle fondamental pour aider le patient et le remettre sur pied. Quand il est jeune, il aura une récupération en intégrum. Le vertige associé, le vertige rien que le vertige, et le vertige dissocié. Alors le vertige dissocié, c'est le grand vertige rotatoire inaugural. On pense immédiatement aux Ménières, parce que c'est le plus fréquent, ou à la névrite vestibulaire, mais attention, le patient est céphalagique. Il est somnolent. Il n'a pas d'inhibition de son nystagmus à la fixation. D'ailleurs, ce nystagmus, par rapport à l'intensité vécue de la crise, est faible. Il n'est pas important. Et si l'on examine son patient, on va voir qu'il y a des signes neurologiques qui attirent l'attention en dehors du labyrinthe. C'est une atteinte d'autres nerfs crâniens, un certain nombre de Claude Bernard Horner, une dysmétrie, une perte de sensibilité thermoalgésique, etc. Donc il y a une ambiance neurologique qui doit conduire immédiatement à un bilan d'imagerie. Et le bilan d'imagerie, c'est quand on peut l'IRM, avec surtout des séquences de diffusion qui permettent de montrer la souffrance ischémique immédiate, au pire le scalaire. Mais les séquences de diffusion parle très vite en IRM. Deuxième thématique très différente, c'est le vertige périphérique positionnel bénin. Vous en avez tous vu. Mais attention, mon message clé aujourd'hui, c'est que tous les VPPB ne sont pas des VPPB. Je vais m'expliquer. La définition d'abord, vertige rotatoire périphérique itératif, chaque mot est important. Violent, très mal vécu, bref, sans surdité, jamais, aucune raison, c'est un phénomène purement mécanique dans les canaux semi-circulaires, induit par le déplacement de la tête dans une position donnée, toujours la même chez un même patient. Ça, c'est une phrase qui regroupe toutes les données sémiologiques du vertige paroxystique positionnel bénin. La physiopathologie, c'est le vieillissement de l'oreille ou un choc qui va faire que des otoconies vont se détacher de la gélatine posée sur la macule ventriculaire ou saculaire et vont venir flotter dans le canal semi-circulaire postérieur. Pourquoi le postérieur? Parce que tout simplement, c'est le plus proche des cavités vestibulaires. Beaucoup plus rarement dans le canal semi-circulaire latéral et exceptionnellement, à part pour les gens qui marchent sur les mains, dans le canal semi-circulaire supérieur. Donc, la sémiologie, et le nystagmus en particulier, va être guidé dans sa sémiologie par le canal en cause. Un nystagmus postérieur, comme c'est un canal postérieur, comme sa position dans l'espace est verticale et latérale en même temps, le nystagmus sera torsionnel, alors qu'un canal latéral, il y aura un nystagmus purement horizontal. Ce sont des finesses sémiologiques. Peu importe, c'est dû à quoi? À ça, ce sont des otolithes de poissons. Les nôtres sont beaucoup plus petits et ils se promènent dans le flux liquidien et ils vont créer de faux messages. Et comment va-t-on détecter ce vertige paroxystique positionnel? Par une manœuvre de Dix et Holpike qui va permettre de mettre en évidence le nystagmus dont je vous parle et dont les caractères sémiologiques vont dire quel est le canal en cause, postérieur ou latéral, et quel est le côté. Donc voici une patiente positionnée comme il faut, tête tournée à 30 degrés, et on va mettre en place, mais ce n'est pas la peine de casser la table, il faut y aller doucement, mais avec fermeté cependant. Et en maintenant l'œil ouvert, parce que le patient naturellement a tendance à fermer les yeux et on ne voit rien, et vous allez voir un nystagmus battre vers le sol. Donc si vous positionnez votre patiente comme ça et que le nystagmus bat vers le sol, c'est un canal semi-circulaire postérieur droit. C'est simple, finalement, la sémiologie. Donc c'est l'oreille la plus basse qui indique le canal en cause. On relève le patient et on va voir ce nystagmus qui battait vers le sol, dit géotropique, battre de l'autre côté quand on le relève. Tout ça, c'est lié au mouvement des otolithes dans le canal malade. Voici ce que ça donne. Avec des lunettes et une caméra infrarouge, positionnement latéral, on va voir apparaître le nystagmus qui apparaît avec latence, il faut le temps que les otolithes se promènent dans le canal et viennent irriter la macule. Ensuite le nystagmus s'épuise, on relève le patient et le nystagmus s'inverse. Ça c'est normal. Alors maintenant, si on veut guérir le patient, il n'y a qu'un moyen, c'est la manœuvre dite libératoire. Cette manœuvre libératoire est appliquée uniquement dans les cas où la sémiologie est pure. Si jamais le nystagmus est faible, il est de latence, il n'y a pas de latence, le malade est très mal alors que le nystagmus est tout petit, il ne faut surtout pas manipuler les patients. Et hop! Voilà une vraie manœuvre de saumon, ça peut être moins violent, on déclenche un nystagmus agéotropique dit de guérison, le patient est guéri. On va relever le patient, l'asseoir, et au moment où on le relève, les otolithes coupables tombent du canal postérieur sur la macule du sacule et vont déclencher un vertige très intense et le patient va tomber en arrière. Donc vous avez toujours intérêt derrière lui, sinon vous allez avoir besoin du SAMU pour le ramasser. Donc j'attire votre attention, si jamais vous faites ce genre de choses, d'abord sur la priorité d'une sémiologie très pure pour ne pas polluer un faux vertige positionnel d'un canal latéral, par exemple, si vous lui appliquez la mauvaise technique comme celle-là sur un canal latéral, le risque c'est de mettre des poussières d'otolithes dans tous les canaux et que ce soit très difficile de guérir le patient. Alors, ça c'est la technique à l'anglaise. Pourquoi à l'anglaise? Parce qu'il n'y a pas de médecin. Vous trouvez ces vidéos sur YouTube. Ça, c'est la manœuvre d'Epley. Donc, c'est une autre manière de guérir un VPPB. Donc, c'est une technique anglaise. Là aussi, on peut faire sans médecin. Donc, il faut attendre 30 secondes. Hop, le patient tourne la tête de l'autre côté que le côté malade. Et ensuite, il va se retourner. Il va pouvoir se relever du côté opposé. Alors ça, normalement, quand il se relève, eh bien, il tombe en arrière. Donc, je vous évite de faire ça sans le savoir. Alors, le problème, c'est ça. C'est qu'il y a des faux VPPB qui sont liés à d'autres problèmes, comme l'hypotension orthostatique, l'insuffisance vertébro-basilaire, les vertiges centraux des syndromes des malformations de Carey, où c'est souvent des vertiges liés au fait de positionner la tête vers le haut. Il y a des tumeurs du tronc cérébral, des tumeurs du cervelet qui peuvent jouer sur la nystagmogénèse dans le tronc cérébral et vous donner le change. Mais jamais, au grand jamais, un vertige, un VPPB dit central, ne va donner une sémiologie aussi pure, avec un temps de latence, un vertige aussi évident, aussi épuisable, aussi typique. Donc si la sémiologie est pure, vous pouvez rassurer le patient. S'il ne l'est pas, il faut être très prudent. Parce que voilà par exemple une malformation de Carey, voilà la luminale cérébelleuse qui est engagée, il y a une compression du tronc cérébral et on peut avoir des VPPB tout à fait typiques. Alors est-ce qu'il faut explorer ces malades? Non. Sauf si effectivement on n'a pas une sémiologie pure ou si les vertiges se reproduisent sans arrêt et qu'on a du mal à les guérir. Même si un rééducateur habitué n'arrive pas à les guérir, ils le savent d'ailleurs, il faut être prudent. Et là, il faut rentrer dans une exploration paraclinique, voire dans une IRM qui permettra d'écarter une pathologie tumorale. Donc, les VPPB sont des pathologies fréquentes, d'autant plus fréquentes que le vieillissement de la population crée naturellement une augmentation de la prévalence de la maladie, ce qui est logique. Hein. Mais il faut savoir que ça peut affecter les gens jeunes, pas forcément uniquement après 65 ans. Hein.
Les tuméfactions cervicales de l'adulte. Bon, je ne vais pas vous apprendre à faire l'interrogatoire. Il doit être exhaustif, reprendre bien sûr les antécédents médico-chirurgicaux du patient, le mode d'installation, si ça s'est installé rapidement ou progressivement. Très important, cette tuméfaction, première chose, est-elle antérieure au niveau du cou ou latérale? Est-ce qu'elle est unique ou multiple? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que c'est mobile par rapport à la peau au plan profond? Ou est-ce que c'est fixé au rachis, au muscle? Est-ce que la peau est adhérente? Est-ce que cette tuméfaction est souple, rénitente, ferme ou dure? Donc ça, c'est de descriptif. Vous avez en haut à gauche une large tuméfaction qui est plus du domaine d'une cellulite. Il n'y a rien vraiment d'isolé sous-jacent. C'est un placard inflammatoire à droite. En bas, vous avez ce qui ressemble à une boule dans le cou. Assez unique, isolé, la peau est normale en regard, et ici vous avez une peau inflammatoire adhérente d'un ganglion métastatique, d'un carcinome spinocellulaire temporal. Les symptômes associés, on est dans le cadre de la pathologie cervico-faciale, vous devez toujours rechercher l'association d'une dysphagie, dyspnée, dysphonie, une obstruction nasale, épistaxis, anosmie, tout ce qui pourrait orienter vers les fosses nasales et les sinus, une origine trompe de stache oreille, donc l'hypoacousie, la notion d'un amaigrissement, déficit des paires crâniennes, la notion d'une douleur, qui peut être une douleur de type otalgie, une douleur à la déglutition, donc odynophagie, ou une céphalée, une douleur à la tête. Est-ce que le patient est fatigué? Est-ce qu'il se gratte? Est-ce qu'il a des sueurs? Alors, les tuméfactions cervicales antérieures, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Vous avez trois zones. Ici, au niveau de la région sous-mentale, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose à part de la graisse, des glandes salivaires. Ici, il y a de la graisse et un ganglion. De temps en temps, d'ailleurs, on peut palper un tout petit ganglion bénin qui fait moins d'un centimètre, qui peut être physiologique, mais il doit vraiment faire moins d'un centimètre. On a des glandes salivaires qui sont dans la cavité buccale, donc on peut avoir une grenouillette, une augmentation de volume d'une glande salivaire accessoire, ou un ganglion. Ici, vous avez donc toutes les pathologies congénitales de migration donc de la glande thyroïde appelée le kyste du tractus thyréoglosse, qui peut être sous-mental, en regard de l'osioïde, en regard du cartilage thyroïde, voire même plus bas, jusqu'à la thyroïde. Et le diagnostic différentiel de cette boule en avant, ce serait le kyste dermoïde. Et bien sûr, dans cette région-là, toutes les pathologies thyroïdiennes. C'est à peu près tout ce qu'on peut avoir. Le kyste du tractus thyréoglosse est donc un trouble de migration des cellules qui vont former la thyroïde et qui peuvent s'arrêter en chemin. C'est très adhérent au niveau de l'osioïde, mais ça peut se développer dans la base de la langue, au contact de l'osioïde et sinon en avant. Ça peut être, comme vous voyez, un tout petit peu paramédian. Hein, donc certains sont même relativement paramédians, donc ça peut remettre en cause le diagnostic. Et on doit donc... Ça, c'est chez un enfant, chez un adulte, un peu plus, donc un jeune adulte. Vous pouvez avoir un caractère donc inflammatoire, mais ça peut être aussi chez l'enfant. Lorsque ça surinfecte, ça devient comme ça. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut faire le diagnostic avant que ça devienne comme ça. Certains enfants, malheureusement, consultent avec une tuméfaction déjà inflammatoire, infectée. On va attendre que l'infection se guérisse par un traitement antibiotique. Et on va... l'opérer ensuite. Pourquoi est-ce que ce patient avait eu un scanner? Parce qu'une tuméfaction cervicale antérieure chez un adulte, donc déjà ça doit faire un peu remettre en cause le diagnostic d'une pathologie congénitale qui concerne en général les enfants ou les jeunes adultes. Donc il faut toujours se méfier. Qu'est-ce qu'on va faire, pathologie tuméfaction antérieure, un examen clinique? Je vous ai dit, regardez dans la cavité buccale, puisque les ganglions de la cavité buccale, ça peut venir d'une infection dentaire ou d'une tumeur de la cavité buccale, donc ça c'est très simple. C'est rarement plus loin situé, donc ça, il suffit de regarder dans la bouche. Bien soulever la langue en avant pour le plancher buccal antérieur. On va vérifier s'il y a une ascension de cette tuméfaction à la déglutition. Pour les tuméfactions liées à la thyroïde, au canule, kyste du tractus thyréoglosse, il y a une ascension à la déglutition. L'échographie cervicale fera le diagnostic et nous dira si c'est un ganglion ou une tuméfaction compatible avec un kyste du tractus thyréoglosse qui est une tuméfaction kystique. Donc on verra si c'est solide ou kystique. Et bien sûr, ça fera le diagnostic si c'est une pathologie plutôt thyroïdienne, intrathyroïdienne. Les tuméfactions latérales, c'est de ça, c'est par contre plus compliqué et plus vaste comme sujet. C'est dominé par les adénomégalies, c'est-à-dire un ganglion augmenté de taille. Nous retrouverons ensuite toutes les pathologies liées aux glandes salivaires. Donc ici, vous avez les pathologies liées à la parotide. Mais la parotide, d'abord, c'est une glande qui, normalement, n'est pas vraiment palpable. Et dès qu'on palpe quelque chose dans cette zone-là, on peut suspecter une origine parotidienne. Mais malheureusement, vous avez des ganglions dans le cou qui remontent assez haut. Et on peut avoir du mal à faire le diagnostic entre une pathologie intraparotidienne ou un ganglion cervical haut situé, ou voire même une masse plus profonde, non parotidienne et non ganglionnaire. Et la glande sous-mandibulaire se situe plutôt dans cette région-là. Vous avez des kystes congénitaux, on verra, et des tumeurs beaucoup plus rares, tumeurs nerveuses, vasculaires, et toutes les cellulites et abcès, mais ça, il y a le contexte quand même relativement évocateur. Donc il y a des situations simples, bien sûr, qu'on arrive facilement à gérer, des infections locales, une tuméfaction qui arrive dans un contexte d'angine, d'une dent infectée, douloureuse, d'une glande salivaire augmentée de volume et douloureuse, on va bien sûr faire le traitement adapté, il s'agit... d'un diagnostic évident. L'adénoflegmon, Valérie vous en a parlé. Bon, ça arrive chez les enfants, jeunes enfants, jusqu'à 3-4 ans, dans un contexte de rhinopharyngite. Et si on a un doute, on fait une échographie cervicale pour vérifier si c'est s'il y a une collection purulente intra-ganglionnaire qui nécessitera un drainage chirurgical. Et bien sûr, dans un contexte de fièvre, d'angine ou de pharyngite, avec des gros ganglions, une asthénie, un patient jeune, on va suspecter une mononucléose infectieuse. Ça, c'est des situations relativement fréquentes. On a eu un cas récemment d'une tuméfaction dans la région sous-mandibulaire sur un calcul enclavé dans le canal de Wharton en avant, qui a entraîné une dilatation du canal salivaire, des abcès, une collection un petit peu abcédée dans la glande sous-mandibulaire qui était, comme vous le voyez, augmentée de volume. Et on a fait un scanner pour vérifier qu'il n'y avait pas de collection à drainer. Alors, le plus difficile, c'est quand même tous ces ganglions qui vont persister un temps un petit peu trop long. Il n'y en a pas de diagnostic. Alors, il faut évoquer des origines infectieuses de type VIH, tuberculose, mycobactéries atypiques, les maladies des griffes du chat, dans un contexte de notion de griffure, et les maladies générales, lupus, polyarthrite rhumatoïde et sarcoïdose. On verra un petit peu comment on va faire. Les ganglions, donc toujours garder à l'esprit qu'un ganglion peut être malin, quelle que soit sa présentation, qu'il soit apparu rapidement, qu'il soit connu depuis même quelquefois 2 ans, 3 ans, parce qu'il y a des présentations tout à fait atypiques, en particulier dans certains lymphomes, d'évolution très lente. Et c'est pas parce que le patient dit qu'il a ça depuis 2-3 ans qu'il faut le négliger. Tout ganglion augmenté de volume est suspect. Voilà, c'est tout. Il faut pas chercher plus loin. Il ne faut pas trop écouter ce que vous dites. Les patients, ils n'aiment pas trop qu'on leur fasse des examens, ils n'aiment pas trop qu'on sache qu'ils ont. Non, non, ça fait longtemps que je l'ai. On peut se tromper et après, on fait le diagnostic. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait des examens, docteur? J'avais ça depuis 2 ans. Toujours penser, donc, la deuxième cause des adénomégalies malignes, c'est bien sûr l'origine métastatique. Donc, bah, c'est pas compliqué. Vous avez des ganglions dans le cou, ça peut venir du cou, ça peut venir au-dessus et ça peut venir du bas. Au-dessus, ça va être les pathologies malignes cutanées, carcinome spinocellulaire ou mélanome. Donc bien regarder surtout chez les phototypes clairs et les patients d'un certain âge, exposés au soleil dans notre région, avec les agriculteurs, les gens qui travaillent la vigne, ils ont quand même pas mal de tumeurs cutanées sur les oreilles, dans la région temporale. Bien sûr, les voies irodigestives supérieures et en partie, donc ça c'est, en général vous dites VADS égale alcool tabac, attention, attention, attention. On a de plus en plus de cancers qui arrivent chez des patients, des carcinomes épidermoïdes qui arrivent chez des patients non alcoolo-tabagiques, en particulier liés au papilloma virus, des patients relativement jeunes. Donc ne jamais mettre toujours les patients dans des cases, hein, des diagnostics dans des cases. Il faut toujours, toujours y penser. Le CAVOM, pareil, c'est pas toujours le patient maghrébin ou asiatique, ça peut être des gens caucasiens, en particulier les carcinomes épidermoïdes et non pas les carcinomes indifférenciés. Bien sûr, une origine thyroïdienne, le cancer de la thyroïde est relativement fréquent. Et bien sûr, toutes les origines sous-claviculaires, poumons, digestifs, des cancers du sein, même traités 10 ans auparavant, on peut avoir un ganglion avec des récidives tardives, des cancers du rein. Bon, les tumeurs, donc ça c'est beaucoup plus rare, les tumeurs nerveuses de type schwannome, neurofibrome, paragangliome, les tumeurs vasculaires du type lymphangiome, qui peuvent en général, qui peuvent arriver chez les jeunes et chez les adultes. Les lipomes, ça peut arriver partout dans le cou, même en avant ou en arrière. Et les glandes salivaires principales, mais ça, c'est la localisation qui oriente. Voilà une image d'un chémodectome, donc une tumeur située sur la bifurcation carotidienne, une tumeur très vascularisée, comme vous le voyez ici, à l'artériographie. Donc ça, c'est bien sûr l'imagerie avec l'IRM, scanner IRM et éventuellement angioscanner, angio-IRM, quelquefois artériographie à visée préopératoire qui vont orienter vers le diagnostic, à la position par rapport au vaisseau. Vous voyez qu'ici, la carotide, la fourche carotidienne est totalement séparée avec la tumeur entre les deux, le lymphangiome kystique dans la partie cervicale en postérieure, avec des signaux évidents au scanner et à l'IRM. Alors, bon, ce qui est très fréquent chez les adultes et les jeunes et les enfants, c'est les kystes congénitaux. J'ai bien mis enfants et adultes jeunes, parce que toute pathologie congénitale, en général, est découverte quand même au début de la vie. Et on ne doit pas évoquer, devant une tuméfaction d'allure kystique, entre guillemets, chez quelqu'un de 50 ans, un kyste congénital surinfecté. Voilà. Il vaut mieux pas garder ça à l'esprit. Il vaut mieux se dire qu'une pathologie congénitale, c'est plutôt chez quelqu'un de jeune. Et on se trompera pas, on évitera de laisser traîner des diagnostics faux. Donc vous voyez ici une tuméfaction parfaitement hypodense au scanner avec un très fin liseré autour. Et elle est parfaitement homogène. Qu'est-ce qu'on va demander comme premier bilan? Ben, le plus simple, c'est quand même de demander de votre côté une échographie qui va dire si c'est un ganglion ou pas un ganglion. Alors bien sûr, toujours pour les tuméfactions cervicales antérieures, comme je vous l'ai dit, puisque c'est ça qui va nous permettre de dire si c'est thyroïdien ou un cystratus thyroglos. Et si c'est un cystratus thyroglos, il faut impérativement vérifier que la thyroïde est bien en place avant de l'enlever, pour éviter d'avoir une hypothyroïdie définitive. L'échographie, dans l'idéal, couplée à un Doppler s'il s'agit d'une pathologie thyroïdienne, parce que ça aide quand même à orienter vers les nodules plutôt suspects. Vous savez maintenant qu'on a des critères échographiques extrêmement précis de savoir si les nodules sont suspects ou pas et s'il faut faire une cytoponction. C'est plus l'échographie de base. Ça permettra de caractériser la tuméfaction. Est-ce que c'est un ganglion? Est-ce que c'est une lésion kystique ou tissulaire? Est-ce que c'est vascularisé en périphérie ou au centre? Et donc, comme je vous ai dit, vérifier ces choses-là. Alors, en cas de ganglion persistant, on va faire bien sûr une numération de formule sanguine pour voir s'il n'y a pas une hémopathie sous-jacente. Et à ce moment-là, ça, bien sûr, ça orientera très rapidement vers une leucémie lymphoïde chronique ou une leucémie aiguë, par exemple, ou vers une maladie qui donne une hyperlymphocytose, etc. Donc, Bon, ça c'est pas toujours évident, hein, ces ganglions qui traînent, on peut avoir des bilans complets avec radio pulmonaire normale, bon ça c'est pour rechercher éventuellement une sarcoïdose, ça aussi avec la négativisation de la sarcoïdose dans l'IDR, la tuberculine, ou alors au contraire un ganglion tuberculeux, sachant que les ganglions dans une tuberculose sont en général assez rénitents, kystiques, remplis d'un liquide aseptique souvent et marronasse. L'échographie qui va être couplée à la cytoponction qui est très intéressante. J'insiste sur la consultation ORL qui me paraît vraiment indispensable puisque je vous ai dit qu'il peut y avoir des cancers des VADS ou du CAVOM. Alors la cytoponction, ça c'est quand même un examen, on en parle beaucoup mais on le fait peu. Pourquoi ? Parce que ça nécessite d'avoir des professionnels formés et compétents et malheureusement, ben, il n'y en a pas beaucoup. En plus il y a de moins en moins d'anapathes en France, donc de moins en moins qui font de la cytologie, parce que ça prend du temps, et bah, ça sert à rien de faire une cytoponction et d'envoyer la lame à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Vous allez avoir une cytoponction, d'abord qui sera mal faite, parce qu'elle sera pleine de sang, et deuxièmement, si la personne ne sait pas le lire après, ce sera inutile. Donc ça, malheureusement, on n'a pas beaucoup dans la région de... Enfin bon, peut-être que je m'avance, mais on manque quand même de pathologistes compétents pour faire ça. Enfin, ce serait vraiment l'idéal, et c'est les recommandations, de faire une cytoponction devant un ganglion persistant. Pourquoi ? Parce que ça va pouvoir programmer la suite de la prise en charge. C'est sûr, si on vous dit en faveur d'un lymphome ou en faveur d'un carcinome épidermoïde, bon, ben, ça va orienter, on va éviter de faire des examens inutiles. Mais bien sûr, ça n'a une valeur prédictive que positive, c'est-à-dire que ça n'est que si ça oriente vers un diagnostic en particulier que c'est intéressant. Si ça vous dit ganglion bénin, méfiance. Voilà, méfiance, toujours méfiance, parce que si vous avez l'impression que cliniquement tout ça c'est très douteux, ben vous devez absolument pas vous arrêter à ça. Le scanner, ben oui, en fait, finalement, presque toujours, hein, devant une tuméfaction, que vous savez pas ce que c'est, il y a une boule dans le cou, vous savez pas ce que c'est, presque toujours, sauf si c'est un ganglion infectieux typique dans le cadre d'une infection aiguë qui va être rapidement résolutive. Ok, ça c'est évident. Une pathologie thyroïdienne typique à l'écho, bah c'est l'échographie qui est vraiment l'examen fondamental en thyroïde. Surtout pas de scanner, ça sert à rien. Et les kystes congénitaux chez un, comme je rappelle, un enfant ou un adolescent, vous avez une lésion purement kystique, latéro-cervicale, infectée ou pas infectée, mais typique évoquant un kyste de la deuxième fente, on peut poser une indication chirurgicale sur une échographie. Dès que, par exemple, vous avez ça, une lésion un peu kystique chez un adulte un peu plus âgé, vous devez remettre en cause ce diagnostic et faire un scanner. Donc finalement, le scanner, il va être fait très fréquemment, même dans des ganglions, parce que ça vous permettra de savoir s'il y a un ganglion, deux ganglions, dix ganglions, et facile de coupler à un scanner thoracique dans le même temps, ça mange pas de pain, c'est rapide, et vous avez rapidement un bilan, entre guillemets, d'extension. L'IRM, bon, si vous avez l'impression qu'il y a une tuméfaction qui est plutôt d'origine parotidienne, vraiment dans la région de la parotide, confirmée ou pas à l'échographie, ou dans la région sous-mandibulaire, l'IRM sera bien plus performant qu'un scanner pour les glandes salivaires. Un scanner se trompe beaucoup pour les glandes salivaires, il y a un très mauvais contraste. Donc on va vous dire, scanner, on ne voit pas trop, et ben voilà, il y aura quelque chose, mais vous ne le verrez pas. Alors, quelques règles. Parce que c'est vrai que nous, à l'hôpital, on traîne quand même des patients qui ont quelquefois eu des histoires un petit peu atypiques. Et ça nous interpelle. Une lésion kystique radiologique ne signifie pas automatiquement bénignité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. J'ai insisté lourdement sur le kyste branchial chez un adulte un petit peu âgé, ou une tuméfaction cervicale antérieure kystique, pareil, qui n'est pas chez l'enfant. Pourquoi on a des ganglions métastatiques purement kystiques dans le carcinome épidermoïde, quel qu'il soit, d'origine amygdalien ou n'importe? Hein, ou les carcinomes différenciés de la thyroïde. On peut avoir également des tumeurs malignes d'allure kystique, et j'ai un patient qui a erré plusieurs années avec un cancer de la glande sous-mandibulaire, vraiment kystique à l'IRM, mais enfin à l'écho, mais à l'IRM, on voyait qu'il y avait vraiment des signes qui n'étaient pas en faveur d'une pathologie bénigne. Et bien voilà, vous avez ici deux images qui se ressemblent vraiment. Ici, c'est un kyste branchial, confirmé en chirurgie. Elle était unique au scanner, mais ce patient avait plus de 40 ans. C'était étonnant de lui trouver un nodule, comme ça, une tuméfaction d'allure kystique à la palpation. C'était parfaitement indolore et bénin. Unique au scanner, on l'a opéré, kyste branchial. Ici, vous avez une tuméfaction pareille, hypodense, petit liseré autour, qui ne prend pas beaucoup de contraste. Heureusement, au scanner, ce qui doit interpeller, c'est qu'il y en avait plusieurs des comme ça. Donc ça, c'est un ganglion métastatique, vraiment, alors kystique ou centre nécrotique. C'est pas vraiment du liquide, hein, c'est de la nécrose. Donc, méfiance, et ce ganglion aurait très bien pu être unique, associé à une tumeur de la base de langue, infrasentimétrique, parfaitement indolore, chez quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas. Donc, ne mettons pas les gens dans des cases, les diagnostics, les pathologies, dans des cases trop simplistes. Tout ganglion augmenté de taille, persistant, justifie une prise en charge diagnostique jusqu'à obtention d'une certitude étiologique. Voilà, je ne veux pas un ganglion qui est dans le cou comme ça, mais oui docteur, ça fait longtemps que je l'ai. On trouve des lymphomes. Alors, c'est pas très grave si c'est un lymphome qui finalement est ganglionnaire, unique, qui est là depuis 2 ans. Il n'y a pas vraiment de retard diagnostique, ça n'a pas changé grand-chose, puisque finalement c'était un lymphome qui évoluait peu. Mais quand même, votre responsabilité, vous ne pouvez pas rassurer votre patient en disant « Ah bon, vous l'avez depuis longtemps, très bien, ben gardez-le ». Non. Toute boule dans le cou est anormale. Voilà, c'est pas normal d'avoir une boule dans le cou. Il n'y a que quand on est un jeune enfant et des pharyngites à répétition, qu'on a des ganglions ici sous-digastriques un petit peu gros, et jusqu'à 1,5 cm, voire 2 cm, voilà. C'est tout, c'est quand on a, quand on fait des infections un petit peu à répétition. Sinon, partout ailleurs, il faut savoir ce que c'est. Il faut aller jusqu'au bout de sa conduite diagnostique. Un cancer peut survenir à tout âge, sans symptômes, ni facteurs de risque. Ça, c'est clair. Je vous ai dit, c'est pas la peine, même si on boit pas, même si on fume pas, même si on fait du sport toute la journée, si on mange des légumes et tout ça, on peut faire n'importe quoi. Donc, il faut traquer ça. C'est pas parce que je suis cancérologue, mais c'est vrai qu'il faut d'abord chercher ce qui est grave et après, on peut traînasser un peu pour faire un diagnostic éventuellement d'une pathologie, maladie de système, je dirais entre guillemets, c'est pas très très grave, ça va pas changer grand chose pour le patient. Mais un cancer, ça peut être assez emmerdant. Attention aux interprétations des examens radiologiques faussement rassurants. Parce que c'est vrai qu'on vous recevez un scanner avec un CD-ROM, une IRM. Alors même nous, on a de plus en plus de mal à lire les IRM avec toutes leurs séquences dans tous les sens. Donc vous lisez le compte-rendu, il est relativement laconique, on vous dit qu'il y a une boule. Voilà, bon, d'allure kystique. Voilà, voilà. Mais c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. D'allure kystique, vous dites, ah, c'est kystique. Voilà. Donc, bah, attention. Attention, il faut confronter et la clinique et la radiologique et la vraisemblance du diagnostic évoqué. La surveillance n'est justifiée qu'en cas de pathologie bénigne bien identifiée, sans risque d'évolution maligne rapide ou risque de complications. Et par exemple, vous avez des nodules thyroïdiens de petite taille, il n'y a pas d'antécédent familial de cancer, pas de ganglion associé, la thyrocalcitonine est normale. Il est possible de surveiller une tuméfaction cervicale, certaine d'être thyroïdienne, sans facteur de risque. Voilà, on peut surveiller. Un kyste du tractus, ben finalement, on ne va pas le surveiller parce que ça ne sert à rien d'attendre que ça s'infecte pour l'opérer. Ce serait dommage, la cicatrice n'en serait que plus moche pour l'enfant ou le jeune adulte. Alors, tuméfaction cervicale, je ne sais pas si c'est un motif fréquent pour vous de consultation. Pour moi, ça l'est, bien entendu. Ça nécessite la plupart du temps une exploration radiologique. Pour orienter quand même le diagnostic. Je dis attention aux éléments qui soient à l'interrogatoire, à l'examen clinique ou radiologique faussement rassurants. On doit savoir ce que c'est.